Sylvain Tesson, je vous laisse finir votre tasse de café. Bonjour.
Bonjour.
Une très légère oscillation, journal 2014-2017, publié aux Équateurs. Qu'entendez-vous par cette expression, une très légère oscillation ?
Pour moi, la très légère oscillation, c'est le mouvement qui correspond à la tentative de calmer un mouvement plus violent qui serait le mouvement du battement, du grand battement. Et le mouvement du grand battement, pour moi, c'est le tiraillement intérieur que nous éprouvons tous, il me semble que c'est assez ordinaire, entre l'envie de nous dépasser, l'envie de voyager, l'envie de partir, l'envie d'horizon, et puis l'envie contraire, qui est une envie de stabilité, de construction intérieure. Et ce tiraillement qui peut être assez effroyable, qui crée une forme de battement dans votre existence, se résorbe quand on écrit, quand on tient son journal, quand on essaye tous les soirs de formuler ce qui est arrivé au cours d'une journée. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à une très légère oscillation.
Mais est-ce que ça n'est pas l'écriture de ce journal, est-ce que ça n'a pas parfois l'allure d'un exercice un peu narcissique ou auto-centré ?
Il y a deux formes de journaux intimes. Il y a un journal narcissique, comme vous le dites, le journal n'est que le miroir de ses petits tourments, de son tas de misérables secrets. C'est le journal intime, c'est un journal psychologique, c'est un journal intérieur dans lequel on essaie de creuser son archéologie personnelle, avec plus ou moins d'intérêt d'ailleurs, parce que parfois, ça n'est que le vide que l'on rencontre. Et puis il y a une autre forme de journal qui est que Michel Tournier appelait le journal extime, qui est le journal non plus de la vie intérieure, mais le journal de la vie extérieure. Les voyages que l'on fait, les paysages que l'on voit, les gens que l'on rencontre, les idées que l'on croise, les débats auxquels on assiste, les événements auxquels on est confronté, les manifestations parfois de l'histoire dont on a la chance d'être le témoin. Ça, c'est le journal de la vie extime. C'est le journal de l'action. Alors, c'est plutôt celui que moi, j'ai essayé de transcrire dans mon journal. Ce n'est pas un journal psychologique que j'ai essayé de tenir. D'abord parce que je crois que je suis un être superficiel et pas intérieur et pas profond. Et c'est plutôt un journal de l'observation.
Et alors, est-ce que cette trépidation, votre accident, n'est pas venu aussi par la force des choses, la calmer ?
Si. Bien sûr, je suis déterminé maintenant par ma carcasse. Alors que jusqu'alors, je pensais que seule ma volonté serait l'aiguillon de mon corps. Maintenant, après un accident qui vous met en mille morceaux, on est obligé d'écouter un peu ses organes. C'est pas plus mal d'ailleurs. Sauf qu'il y a des gens qui sont pas obligés de se jeter par la fenêtre pour arriver à ces constatations-là et pour comprendre qu'il faut écouter un peu son corps avant de se lancer dans des activités inconsidérées. Moi, j'ai dû passer par une phase une adversité physique pour le comprendre.
Alors, vous l'aviez raconté déjà, ça, sur les chemins noirs, vous y revenez ici. En particulier, vous rendez hommage au dévouement des infirmières.
Oui, alors d'abord, je précise que je suis assez. Je passe assez rapidement sur mes petits malheurs. Je consacre quelques pages de journal parce que ça a été un événement important dans mes années 2014-2015. Ce passage à l'hôpital. Et bien sûr, comme c'est tout le malheur de l'existence, c'est qu'on passe toujours à côté de choses qui sont cruciales et essentielles, et puis on s'en rend compte uniquement quand on n'a pas d'autre choix. Il faut toujours attendre le dernier moment avant de se rendre compte de ce que on négligeait un peu. Et tout ce système hospitalier qui est un symbole extraordinaire de la philanthropie, la compassion, du lien que les gens émettent et construisent les uns avec les autres. L'hôpital, qui est le théâtre de toute forme d'ailleurs de très beaux comportements humains. Courage, parfois l'héroïsme, parfois la compassion, la solidarité, enfin tout ce qu'on peut émettre comme ça et symboliquement, je le méconsidérais parce qu'il ne m'était jamais rien arrivé. Et puis quand j'ai fait ce séjour, j'ai découvert ce peuple, le peuple en blanc, les infirmières, les aides-soignants, les médecins. Et évidemment, tout cela m'a beaucoup impressionné. Mais vous savez, il en est exactement de même de ces expériences que du système électoral. C'est-à-dire, on demande à des individus de se prononcer sur le destin collectif en fonction de leurs petits intérêts individuels. C'est tout à fait absurde. Et l'hôpital, c'est, finalement, c'est pareil. Ces grands événements de la vie sont des événements qui existent et que finalement, vous ne faites que les réduire à la petite expérience personnelle que vous en avez.
Alors, on va quand même parler encore de votre accident et surtout de ce qui a suivi, la rééducation. Et je dois dire que l'un des passages les plus forts qui donne lieu à des pages absolument admirables est consacré à Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, que vous rebaptisez Notre-Dame de Bon Secours. Et vous racontez que vous vous astreigniez chaque jour à escalader les tours, alors par l'escalier cette fois-ci, et non pas par les façades extérieures, comme vous auriez pu le faire par le passé. Donc voilà, vous vous livrez à cet exercice quotidien de monter jusqu'au sommet des tours de Notre-Dame. Et ce qui donne lieu à un exercice littéraire, non, parce qu'on sent la sincérité de ces pages, mais vraiment un moment dans le livre absolument sublime. Moi, je veux dire qu'on redécouvre avec vous, comme vous-même vous l'avez fait, on redécouvre Notre-Dame.
Oui, Notre-Dame est d'abord une cathédrale auprès de laquelle j'habite. Et j'avais l'impression c'est toujours pareil, de passer à son pied sans trop jamais considérer ce qu'elle était. Et ces milliers d'années de présence pure sous le ciel de Paris est beaucoup plus qu'un miracle architectural. C'est une présence qui peut apporter son bénéfice. Et moi, j'avais besoin, en sortant de l'hôpital, de me réactiver, de faire une rééducation. Alors j'ai choisi de monter tous les jours en haut des tours, par les escaliers. Au début, c'était l'Himalaya, 400 et quelques marches. Et puis ensuite, c'est devenu une forme d'exercice. Et puis après, de passion et de plaisir. Et j'avais beaucoup de difficultés à quitter les ombrages de ces tours. Et puis il y avait un phénomène symbolique. Je montais dans ce colimaçon. Alors qu'est-ce que c'est que la spirale? C'est ce qui vous permet de gagner des échelons tout en restant sur le même plan. On ne va pas vers l'avant, on ne voyage pas quand on est dans un escalier en colimaçon. On s'élève tout en restant sur place. Quelque chose de très métaphorique qui ramenait ce que j'étais en train de faire en montant dans les tours à ce que je vivais physiquement et psychologiquement et physiologiquement en retrouvant mes forces par une forme d'immobilité.
Et puis surtout la redécouverte de quelque chose qu'on a sous les yeux et qu'on finit par ne plus voir.
Mais c'est le grand problème de la vie. C'est pourquoi néglige-t-on tellement ce que plus tard on regrettera? Voilà un autre tiraillement.
Alors à ce propos, vous évoquez évidemment, c'est un journal, même si vous avez dit d'emblée que ce n'était pas un journal intime, mais vous évoquez des événements de votre vie. Il y a la mort, la disparition brutale de votre mère. La seule leçon que nous donnent les morts, c'est de nous hâter de vivre.
Oui, bien sûr, quand on n'a pas le secours de la foi, ce qui est mon cas, et qu'on ne croit pas, et ce qui était le cas de ma mère d'ailleurs, quand on ne croit pas aux béquilles morales de la vie éternelle, il faut trouver autre chose. Et la vie après la mort, c'est le souvenir des morts dans la mémoire des vivants. Et c'est aussi l'enseignement permanent qu'ils pourraient nous donner, surtout quand ils ont disparu très vite, très brutalement, sans prévenir, en tirant l'échelle. Ils donnent l'enseignement de se hâter de vivre. L'expression est de Jean Kelevitch. Il ne faut pas rater sa dernière matinée de printemps. Il y a quelque chose de très beau dans cet
emprunt. Vous le citez d'ailleurs dans le livre. Oui.
C'est ça, il y a quelque chose de tout à fait saisissant dans cette injonction que donnent les morts aux vivants de vivre. C'est pour ça qu'il faut toujours vivre entouré du souvenir de ses morts. C'est cela, croire aux fantômes. Ce n'est que cela.
Alors vous êtes aussi un observateur du monde tel qu'il va ou ne va pas et de notre société. Et vous avez comme ça des agacements récurrents qu'on partage ou pas. Moi, j'avoue que j'ai pas mal jubilé à lire ces passages qui reviennent assez souvent, consacrés en particulier à ce monde connecté, comme l'on dit aujourd'hui, à cette réalité augmentée, à ces obsédés de l'iPhone. Et d'où ça vient cet agacement chez vous?
Mais ça vient que je me pose une question très simple et qui, bizarrement, n'est pas à l'origine des débats que l'on entretient sur ce phénomène de la révolution digitale que nous vivons maintenant depuis, je ne sais pas quoi, 30 ou 40 ans. La question, c'est est-ce que cela améliore notre vie? le charme de la vie. C'est la seule question qui m'intéresse, moi. C'est la seule question que je trouve cruciale. L'existence est totalement absurde. Nous ne savons pas pourquoi on est né, on ne sait pas pourquoi quand on va mourir. Et nous avons cet intervalle de vie très court que nous allons regretter infiniment quand il se terminera, alors que nous souffrons tellement de vivre. Et il n'y a qu'une question qui est le charme. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est agréable de vivre? Eh bien, la question de la révolution digitale, elle est très simple. C'est est-ce que tout cet extraordinaire ensevelissement sous la technologie et les écrans, est-ce que ça améliore la qualité de notre vie, son mystère, son charme, sa valeur, son pétillement, son intensité, son originalité, sa fantaisie? Et je crois que non. La réponse est non. Alors je détaille, je dis pourquoi dans ce journal. Mais je suis absolument persuadé que c'est même le contraire. Cela nous rend esclaves, cela nous rend soumis, cela abîme le rapport que nous avons au temps, cela dégrade le rapport que nous avons aux autres, cela affadit épouvantablement cette merveille qui fait d'ailleurs l'existence de l'homme et qui s'appelle le langage, ce qui nous sépare de la bête, l'avilissement effroyable du langage par cette espèce de langue digitale, moi me heurte beaucoup les oreilles, et tout cela je le verse au débit de la contribution du digital dans l'amélioration de la fantaisie et du charme de la vie.
Et alors, à ceux qui vous taxeront de réactionnaires, qu'est-ce que vous répondez?
Mais je dirais que que ce genre d'argument existe depuis la nuit des temps. Il y avait déjà, il y a très très longtemps, des gens qui taxaient de réactionnaires. Si bien que finalement, on voit là que cette critique est beaucoup plus ringarde que ce qu'elle prétend dénoncer.
Il y a un côté panthéiste chez vous. Alors, vous ne croyez en aucun dieu, mais peut-être que votre religion serait le panthéisme, la célébration de la nature, de la dimension spirituelle presque qu'elle pourrait avoir. Et en particulier, il y a un hommage rendu, il y a tout un passage sur les arbres.
Oui, moi je crois beaucoup qu'on ne peut pas à la fois croire à des mondes hors du monde et admirer le monde que nous avons. J'ai une immense capacité d'admiration, notamment pour la nature, mais d'admiration au sens artistique du terme. J'admire les structures biologiques, j'admire les structures du vivant, j'admire la volonté de vivre, qu'elle soit dans les sphères faunistiques ou floristiques. J'admire les structures minérales. Tout ça me plonge dans des états d'ébahissement qui me permettent de me contenter du monde et de ne pas avoir à chercher des chimères. Je préfère me contenter, je préfère observer plutôt que d'espérer. Et comme j'ai étudié la géographie, on m'a équipé d'un bon système, d'un bon appareillage d'observation, car c'est ça le géographe, c'est celui qui regarde, qui touche, qui sent, qui écoute et qui essaie de comprendre le dessin du paysage qu'il a devant les yeux. Cela, ça m'intéresse. Alors évidemment, les chimères et les constructions de l'esprit, les fables religieuses, elles m'intéressent d'un point de vue culturel. Elle m'intéresse comme toute construction, comme m'intéresse une construction artistique, plus ou moins d'ailleurs, parce qu'il y en a que je considère tout ne se vaut pas, tout n'est pas égal dans le monde. Il y a des constructions, des révélations monothéistes qui ne valent pas les autres. Mais en termes d'admiration, je préfère évidemment regarder, me contenter d'observer le monde plutôt que d'en espérer un dont je ne suis pas sûr qu'il exista.
Et donc, dans ce monde en particulier, les arbres, qu'est-ce qui nous apprennent les arbres?
D'abord, les arbres sont très polis. Il y a quelque chose que j'aime et qui est la distance que les êtres mettent entre eux. J'aime pas beaucoup la familiarité. Les arbres ne se mettent pas des tapes dans l'épaule en disant « Comment ça va, mon vieux ?» Vous comprenez? Parce qu'il faut se méfier de la familiarité. Donc, ça commence par une tape dans l'épaule et ça finit parfois par un coup de couteau. Les arbres, vous remarquerez qu'ils poussent en grande communauté. Ce sont une forêt et une foule, mais ils ne se touchent jamais. C'est très impressionnant. Même leur frondaison dessine des frontières, les feuilles ne s'en mêlent pas, il y a une extraordinaire distance qui est marquée. Deuxièmement, la forêt paraît une communauté unimorphe et uniforme. Moi, j'aime pas l'uniformité, et pourtant, quand on regarde chaque arbre, on s'aperçoit qu'il est tout à fait distinct et singulier. Et puis, il y a, métaphoriquement, c'est quand même extraordinaire, un être vivant qui va puiser l'azote et toutes les formules chimiques dans le substrat, dans le terrestre, et qui va ensuite, par une espèce de colonne d'énergie, comme un geyser, pulser cette sève dans l'explosion des feuilles pour aller chercher le photon solaire. Enfin, c'est extraordinaire, c'est le trait d'union entre la force magmatique et la force solaire. Chaque arbre est un temple, une forme de temple païen, oui, enfin un temple voué à la célébration des éléments.
Vous pratiquez l'art de l'aphorisme dans ce journal. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous apporte ? En quoi il vous intéresse ?
D'abord, il correspond bien à mon mode de vie qui est un peu agité. J'ai besoin donc d'un genre littéraire, d'un genre d'expression qui est rapide, qui est lapidaire. Deuxièmement, dans l'aphorisme, il y a une joie, une jouissance d'essayer de ranger la confusion du monde en quelques phrases lapidaires, en sachant très bien que le revers de l'aphorisme, c'est la mauvaise foi. L'aphorisme ne veut rien dire et l'aphorisme ne prétend pas expliquer. L'aphorisme est simplement, tout à coup, une purge, une expulsion d'un sentiment que l'on a, qui parfois est épidermique, qui ressemble davantage à un rush cutané, comme disent les dermatologues, devant une situation ou devant un paysage, qu'à une longue explication rationnelle.
Le risque, ça peut être aussi de sombrer dans le jeu de mots, voire quasiment le calembour, enfin que l'aphorisme sonne creux.
Ah oui,
comment
ça,
on évite ça ?
Ça, c'est plus qu'un risque. Ça, c'est le danger, la menace pathétique de sombrer dans le café du commerce. Mais en même temps, quand on aime les mots, quand on aime la musique des mots, on est prêt à aller au sacrifice. Moi, je suis prêt à faire un bon mot lamentable parce que ça m'amusera et je veux bien avoir... C'est le seul courage que j'ai, en fait. J'aurais aimé pouvoir m'avancer sur la plaine de Troie comme Achille, avec le torse ouvert aux flèches des ennemis. Mais malheureusement, j'ai pas ce courage-là parce que je suis lâche. Et ma seule témérité, c'est que je ne me refuserai jamais à un mauvais calembour et à un mauvais jeu de mots.
Alors j'en cite deux, l'un plus léger, l'autre beaucoup plus profond. Bon, on parlait tout à l'heure de ce monde connecté. Internet, point d'interrogation, une crise d'épilepsie mondiale. Je suis rentré dans un bar, un autre que moi-même en est sorti. Un autre que vous-même est sorti de ces trois années, 2014-2017, et de l'écriture de la tenue de ce journal.
Mon journal, je le tiens depuis longtemps, je le tiens depuis une vingtaine d'années, mais ces trois années ont correspondu aux événements que nous connaissons, qui ont peut-être
à la fois
assombri.
Collectif et personnel pour vous.
Collectif, ces événements ont sans doute assombri l'espèce de... Y avait-il une joie collective qui régnait dans ce pays ? Je ne suis pas sûr. Mais ça a assombri, oui, le climat intérieur et mental de nos compatriotes. Et le mien, oui, pour des petits événements d'adversité personnelle. Alors, il y a eu la conjonction des deux facteurs. J'ai essayé de montrer dans ce journal qu'il y a des moyens de reconquérir une forme de vitalité existentielle, notamment par l'échapper. J'essaye d'explorer les manières dans la vie de prendre le large devant une situation qui est trop lourde, qui est trop
sérieuse. Mais est-ce que ça n'est pas la fuite, ça ?
C'est la fuite, c'est exactement la fuite. Ça n'est pas forcément
de lâcheté, alors, non ?
Je ne sais pas, on peut appeler ça comme ça, si on a envie de si on veut moraliser la vie privée. Il y en a qui veulent moraliser la vie publique et ils finissent par devoir sortir du jeu. Alors si vous voulez moraliser la vie privée, vous pouvez dire que c'est de la lâcheté. La fuite devant l'obstacle n'est pas forcément un demi-tour. C'est la tentative de trouver un moyen de ne pas avoir à donner à l'obstacle des raisons de vous arrêter. C'est plutôt un tel sentiment de liberté intérieure que vous partez du principe que absolument rien au monde ne sera ne peut prétendre avoir la légitimité de vous empêcher d'être libre. Alors à ce moment-là, vous trouvez des voies d'échappée. Les miennes sont la littérature, le voyage, l'aphorisme, l'escalade, l'alpinisme, la contemplation des paysages de minéraux, la conversation avec les bêtes et les arbres. Ce sont ce genre de choses. Chacun peut déployer sa panoplie de voies d'échappée possibles. Et le journal permet de les consigner. Et finalement, c'est une échappée dans l'échappée.